France Musique.
James Tissot, un carnet de bal à l'anglaise. Le jeune peintre Jacques, alias James Tissot, alors âgé de 19 ans, monte à Paris pour étudier à l'École des Beaux-Arts. Il étudie auprès de deux grands artistes français du 19e siècle, Hippolyte Flandrin et Jean-Auguste Dominique Ingres. Mais il se forme avant tout au contact de ses amis et connaissances, artistes et écrivains, Édouard Manet ou Edgar Degas. À l'instar de ses contemporains, Alfred Stevens ou Claude Monet, Tissot explore une nouvelle tendance, le japonisme. Avec la japonaise au bain, il est le premier à prendre ce thème pour sujet en peinture en 1864 avec le peintre américain Whistler. Ce dernier exerce une grande influence sur le jeune artiste, tout comme ses contemporains Laurence Almata Dema et Edward Burne-Jones. Il décide alors d'angliciser son nom. Il se fait dorénavant appeler James. James Tissot reste à Paris durant la guerre franco-prussienne de 1870, où il rejoint les tirailleurs de la Seine, puis la défense de Paris durant la Commune en 1871. C'est après qu'il traverse la Manche. Londres attire les exilés, et en particulier les artistes. Pissarro, Sisley ou encore Monet. La ville est proche, le marché de l'art y est prospère et la communauté française est déjà importante. Le marchand d'art, Paul Durand-Ruel, a transféré son stock en 1870 et ouvre une galerie. Comme des milliers de Français qui fuient la répression de la Commune, James Tissot se réfugie dans la capitale britannique. Il emménage alors dans une imposante villa du quartier de St. John's Wood, au nord-ouest de Londres. Ayant déjà travaillé pour le magazine Vanity Fair, comme caricaturiste sous le pseudonyme de Coïdée et exposé à la Royal Academy en 1864, James Tissot dispose de solides relations sociales et artistiques dès son arrivée en Angleterre. Ce n'est malheureusement pas le cas de certains de ses confrères exilés. La langue est le premier obstacle de l'exil. Le sculpteur Jules Dalou, condamné par contumace à la chute de la Commune, passe 8 ans à Londres avant d'être gracié. Son exil britannique est difficile, car il ne parle pas anglais. Il est aidé par son ami Alphonse Le Gros, arrivé avant la guerre à Londres, où ses œuvres sont mieux reçues qu'à Paris. Alphonse Le Gros soutient les futurs impressionnistes et leur fait profiter de son réseau. Ainsi, Claude Monet, qui arrive à Londres en 1870, mais il n'y reste que quelques mois, peint des vues de Park et la Tamise, puis repart. Il n'est pas encore célèbre, ne vend pas et est recalé par le jury de la Royal Academy. De son côté, James Tissot développe rapidement sa réputation de peintre de l'élégance féminine avec une certaine théâtralisation du monde et un jeu sur les apparences. Il rencontre cependant quelques réticences, comme celle du critique d'art John Ruskin, qui décrit les œuvres de Tissot comme de simples photographies en couleur de la société vulgaire. Une société victorienne dont le peintre nantais devient le portraitiste. Portraits qui nous conduisent de bal en jardin et de croisière en pique-nique, en passant par les salons des élégantes de l'époque. Dans Evening, appelé aussi le bal, Tissot invite à l'observation d'une jeune femme faisant son entrée dans une soirée huppée. Vêtue d'une luxuriante robe jaune à longues traînes en forme d'arabesque, au milieu des rubans et des dentelles, un tissu à motif japonisant de poisson dans l'eau, métaphore de l'aisance certaine de la jeune femme à pénétrer ce milieu où seule sa beauté l'impose au rythme d'une valse. Robe à volant, réception au champagne, promenade sur la Tamise, James Tissot nous convie à nous frayer un chemin parmi les invités. Sur le pont d'un bateau, parmi les dames et demoiselles tirées à 4 épingles, nous suivons la régate sur l'île de Wight, lieu de villégiature très prisé par la reine Victoria et le gratin londonien. Fils de drapier, le peintre s'est fait une spécialité des toilettes de la haute société anglaise qu'il reproduit avec virtuosité. Non sans humour, puisqu'il glisse parmi ses créatures féminines quelques-unes à la toilette pour le moins choquées. Certaines ont en effet la gorge nue, avec un simple ruban autour du cou. Tenue strictement réservée aux tenues du soir ou aux courtisanes. Un monsieur penché vers ces dames semble apprécier le détail. Mais en bas, on danse, semble dire le peintre du bal sur le pont, qui, à travers les deux étages du bateau, illustre sans doute la séparation des classes sociales. À la manière des fameuses affiches de Toulouse-Lautrec, Tissot offre le miroir d'une scène de danse où l'atmosphère est moins guindée et l'ambiance plus amusante. C'est certain, on s'amuse mieux en bas. Les mazurkas, redowas et polkas sont désormais des danses trop fades qui appartiennent à l'ancienne génération. Place à la valse et au two-step. La société victorienne aime la musique légère et lorsqu'elle ne danse pas, elle se rend au Savoy se régaler de l'humour typically British, du librettiste Gilbert et du compositeur Sullivan, le pendant du célèbre trio français Offenbach, Meillac et Halévy. James Tissot n'y est pas insensible non plus et il se délecte, comme ses modèles, de ce répertoire musical en vogue à l'époque à Londres comme à Paris. Le peintre populaire devient un riche et célèbre dandy. Ses scènes de genre sont régulièrement exposées à la Royal Academy. En France, ses collègues le jalousent et les critiques d'art ne manquent pas d'aiguiser leurs plumes acerbes. L'artiste reste cependant ami avec Édouard Manet et Berthe Morisot qui lui rendent visite à Londres. Whistler, quant à lui, insuffle à la palette de Tissot les couleurs et le brouillard de la Tamise. Le peintre de la Gentry et la société mondaine aime aussi le bruit des dockers et des bateliers. Celle qui devient sa compagne, sa muse et son modèle se nomme Kathleen Kelly. Rencontrée en 1875, elle est divorcée. Irlandaise et mère de deux enfants. Elle est d'une grande beauté, celle que l'on nomme d'un genre navré. Appartenant bien à la mode de l'époque qui pose la femme en figure de désolation. Condamnée par quelques mal étranges qui l'éloignent de toute réalisation concrète, pratique et réaliste avec elle. Elle est alors rejetée dans un espace de solitude qui fascine. Dès 1876, elle traverse la peinture de l'artiste, avec toute la grâce élastique de son corps mince et élégant. Mais avec l'immatérialité que lui donne déjà la promesse irréversible et fatale de la mort. Tissot ne se lasse pas de peindre son grand amour, en particulier dans le jardin de son élégante maison ou dans le salon japonais qu'il a fait aménager avec soin. Il aime appeler la jeune femme « ma vournin, mon amour » en gaélique irlandais. La vie amoureuse de l'artiste ne peut convenir au code de la société bourgeoise. James Tissot et Kathleen Kelly adoptent alors une douce vie de bohème à laquelle sont conviés les amis de l'artiste. Tissot abandonne sa vie mondaine pour s'attacher avec une ferveur désespérée à cette femme énigmatique et silencieuse. Figure radieuse, puis déclinante. Le 9 novembre 1882, Kathleen se donne la mort, épuisée par sa maladie, la tuberculose. Elle est âgée de 28 ans. Tissot est inconsolable. Une semaine après la disparition de l'aimé, il vend la maison de St. John's Wood à son ami le portraitiste Laurence Alma Tadema et rentre à Paris. Il ne sera jamais plus amoureux. Il ne peindra jamais plus de scènes de caractère. C'est alors qu'une révélation mystique en 1885 offre à son pinceau de nouvelles couleurs, une nouvelle lumière, celle des scènes bibliques.
À réécouter sur francemusique.fr.